VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Nouakchott, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Au Mali, accalmie relative dans le nord du pays, principal bastion des indépendantistes, alors que l'on constate une intensification des actes de terrorisme et des attaques de djihadistes ailleurs dans le pays. Pourquoi ? L'analyse de Souleymane Drabo, ancien rédacteur en chef du quotidien L'Essor à Bamako, au micro d'Éric Manirakiza.
C'est peut-être la rançon de la signature de l'accord de paix qui a été signé le 15 mai et le 20 juin à Bamako entre le gouvernement et certains groupes armés. Parce que cet accord de paix a clarifié un peu le paysage des attaques. Tous les groupes qui avaient des velléités indépendantistes ou bien autonomistes respectent le cessez-le-feu aujourd'hui. Donc, toutes les attaques qui ont lieu sont le fait de groupes vraiment djihadistes ou bien terroristes. Si vous regardez une carte du Mali, ces attaques ne touchent plus tant le nord du Mali que le centre du pays. C'est une zone dont certains combattants sont originaires, et des combattants qui avaient rejoint le Nijao à l'époque de l'occupation du Mali en 2000.
Est-ce que l'État malien a les capacités de contenir ces attaques, voire même éradiquer cette menace?
Non, mais aussi bien l'armée malienne que la MINUSMA n'ont pas trop de capacités à combattre la guerre asymétrique qui leur est proposée. Ce sont des forces conventionnelles qui se déploient de manière assez classique. Aujourd'hui, il faut réorganiser l'armée malienne pour pouvoir combattre cette guerre asymétrique qui est imposée au Mali. Et le Mali aussi devrait demander à la MINUSMA de revoir le mandat de la force onusienne pour le permettre de prêter main forte à l'armée malienne dans ce nouveau combat qui est proposé. En fait, dans le contexte actuel, il n'y a que les Français de Barkhane qui sont outillés, équipés, formés, entraînés à ce genre de combat.
Vous avez parlé de la signature de cet accord où plusieurs groupes armés ont accepté le cessez-le-feu. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir convergence de forces entre l'État malien et ses groupes armés pour pouvoir faire face justement à ces attaques terroristes?
Effectivement, c'est un des points importants qui figure dans les accords de paix, c'est de constituer des patrouilles mixtes pour sécuriser ce vaste territoire que constitue le nord du Mali. Mais la constitution de ces patrouilles mixtes est conditionnée par la mise sur pied d'abord du comité du suivi de l'accord de paix. Et donc, ces points organisationnels et structurels qu'il faut mettre en place d'abord, qui retardent justement la constitution et l'entrée en action des patrouilles mixtes. Donc il est vraiment urgent pour toutes les parties, le gouvernement comme les groupes armés signataires de l'accord de paix, de se mettre d'accord tout de suite sur le comité de suivi.
Souleymane Drabo, ancien rédacteur en chef de L'Essor, joint à Bamako par Éric Manirakiza. En Mauritanie, le Parlement a adopté une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage, désormais considérée comme un crime contre l'humanité, et doublant les peines contre ses auteurs, Salwa Jafari.
C'est une nouvelle mouture de la loi anti-esclavage de 2007. Le nouveau texte adopté par l'Assemblée nationale criminalise 10 autres formes d'esclavage et double les peines contre leurs auteurs. Parmi ces nouvelles formes incriminées, le mariage forcé d'une femme considérée comme esclave, moyennant une contrepartie en espèce ou en nature, sa cession à une tierce personne ou sa transmission par succession à la mort de son mari à une autre personne. Les peines maximales encourues pour ces pratiques passent à 20 ans de prison dans la nouvelle loi, assortie d'amendes contre 5 à 10 ans de détention auparavant. La loi permet aussi un dédommagement des victimes. Selon l'association australienne Walk Free, il y aurait près de 155 000 esclaves en Mauritanie, ce qui constitue 4% de la population.
Afrique centrale maintenant, en RDC, réquisitoire du ministère public jeudi au procès en appel des 5 accusés de l'assassinat du défenseur des droits humains Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana. Fondateur de l'ONG La Voix des Sans-Voix, Floribert Chebeya avait été retrouvé mort le 2 juin 2010 après avoir été convoqué au siège de l'inspection générale de la police pour y rencontrer le général John Numbi qui était alors chef de la police. Le compte-rendu de Cyril Milandou de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Au terme de près de 4 heures de réquisitoire, le ministère public a requis la perpétuité à l'égard du colonel Daniel Moukalaï et 4 autres prévenus. Ce réquisitoire est salué par les partis civils. Maître Richard Bondou.
Ce réquisitoire répond aux attentes des partis civils qui ont protesté contre la peine de mort pour ne pas salir les immaculés du sang toxique des criminels.
Du côté de la défense du colonel Daniel Mukalai, on qualifie ces réquisitoires de trop durs. Maître Bokata Ikundaka mise sur l'intime conviction des juges.
On peut parler de lourdeur et de réquisitoires extrêmement durs.
Kinshasa, Cyril Milandou de Top Congo FM pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burundi, les rumeurs foisonnent dans le pays, particulièrement à Bujumbura, la capitale. En effet, les principales radios indépendantes sont fermées depuis déjà 3 mois et les gens se rabattent sur les médias sociaux comme Facebook, WhatsApp et Telegram pour s'échanger les toutes dernières nouvelles sur la situation toujours volatile dans le pays. Le procureur de la République dit que des enquêtes sont en cours sur la fermeture des radios indépendantes par les autorités, mais les gestionnaires des radios privées affirment que rien n'est fait pour que les radios indépendantes reprennent leurs activités. Plus de détails avec ce reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Près de l'église Saint-Michel, dans son bureau assis à l'avenue de la Mission, Belise Canez, à la trentaine, a les yeux rivés sur l'écran de son smartphone. Côté d'elle, une radio de type Sony est laissée à elle-même. Sa radio publique africaine préférée, RPA en sigle, n'émet plus depuis 3 mois. À la place, elle se concentre désormais sur les médias sociaux, tels Facebook, heure après heure. À la quête d'une information vérifiée, Belise Canez.
Chaque minute, je dois être informée pour savoir quoi faire. Il y a des problèmes, vous savez, ici à l'insécurité, on n'est pas sûr du lendemain. Je dois suivre toutes les informations. Avant que les radios ne ferment, j'avais une radio que je préférais beaucoup, la RPA. Maintenant, je fais un peu de confiance à la Voix d'Amérique, mais surtout à certains sites Facebook. Des fois, il y a des sites de menteurs, de propagandistes, d'extrémistes, mais il y en a qui sont fiables. Je dois consulter toutes les 3 heures.
Elie Nyandui, 45 ans, habite les collines surplombant la capitale. Depuis plus de 3 mois, il n'écoute que la radio-télévision nationale qui, elle, émet sur toute l'étendue du territoire.
Les informations que nous suivons normalement passent principalement sur la radio nationale et la télévision nationale. Que ça soit crédible ou pas, on est obligé de suivre cette information parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous suivons aussi la radio France Internationale ou même la radio Voix d'Amérique. Vous pouvez demander aux autorités de réouvrir les radios et les télévisions qui ont été fermées.
Le rédacteur en chef de la radio Bonécha, aucune enquête n'a jamais été menée dans les faits, même si le chef de la cellule communication à la présidence de la République attend les conclusions des services habilités, Léon Massengo.
Nous avons déjà approché le procureur général de la République. Nous avons saisi la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et visiblement on constate qu'eux-mêmes ne sont pas à mesure de trouver une solution ou de répondre à notre demande et de reprendre nos activités. C'est déplorable. C'est vraiment dommage que l'on puisse passer 3 mois sans avoir accès à nos sites et sans pouvoir reprendre nos activités. Nous ne sommes pas au courant de tout ce qui se fait en termes d'enquête. Nous n'avons jamais été approchés par ces gens.
Human Rights Watch a indiqué que les rumeurs et la violence alimentent l'incertitude au Burundi. Cette organisation affirme aussi que la suppression des médias indépendants est aussi préoccupante que la violence qui s'empare du pays des mille et une collines. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, pour La Voix de l'Amérique.
Actualité hors d'Afrique, le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été exonéré hier de plusieurs accusations d'agression sexuelle portées contre lui en Suède. Mais il est loin d'être tiré d'affaire, car il reste toujours visé par une plainte pour viol. Jean-Roger Bion.
La procureure en charge du dossier s'est dite dans un communiqué obligée de classer sans suite une partie de l'enquête. La raison du non-lieu sur les accusations d'agression sexuelle découle du délai de prescription de 5 ans écoulé depuis les faits dénoncés par une Suédoise, alors âgée d'une trentaine d'années. Cette prescription ne devrait rien changer pour Julian Assange, aujourd'hui âgé de 44 ans et réfugié depuis plus de 3 ans à l'ambassade d'Équateur à Londres pour échapper à un mandat d'arrêt européen émis par la Suède suite à la publication de documents secrets sur le site Wikileaks. Une autre plaignante suédoise est en effet en ligne de mire et la prescription concernant ce nouveau cas n'interviendra qu'en août 2020, ce qui laisse encore 5 ans à la police britannique pour interpeller Julian Assange. La suite de la procédure d'ici à 2020 est très incertaine, même si la procureure s'est dit déterminée à la mener à bien.
Et pour terminer, le secrétaire d'État américain John Kerry se rend aujourd'hui à La Havane pour la réouverture de l'ambassade des États-Unis à Cuba 54 ans après sa fermeture. Plus d'infos sur notre site internet et également sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.